La Stammtische, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.
Hello à tous, bienvenue à la Stammtische, tournée gratuite. Je vous offre une bière du CP Tavanne pour chacun aujourd'hui. Cadeau de la maison, qu'est-ce que je vous sers d'autre, Dom?
Moi je prends volontiers un petit peu d'eau plate.
De l'eau plate,
ouais, l'eau plate
pas
ouais.
De problème, ça marche, Laurent.
Écoute, tu mets un petit shoot de Carmol avec tout ça, parce que j'ai lu que c'était là, justement, tu parlais du CP Tavanne, et on a un très bon papier là dans le Journal du Jura sur Ajour, en immersion dans un match du CP Tavanne en 3ème ligue, c'est une belle aventure, et justement, ils sont visiblement assez accros au Carmol, là. Donc j'aimerais goûter ça pour me réveiller, visiblement. Quoi.
On en a reçu d'une droguerie là-bas en haut dans le Jura bernois, c'est parfait, Cyril.
Pour moi, Linden, je prendrais une bière orvinoise. Et parfait. Pourquoi une bière orvinoise, Linden?
Ça, c'est la question.
Parce que à l'heure où on enregistre tout ça, il y a 22 ans, naquit loin dans les collines de calcaire fertile d'Orvin. Qu'est-ce qui est né il y a 22 ans?
Un miracle.
Le miracle, voilà, on y reviendra plus tard.
C'est noté, j'arrive dans 5. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à vous demander si on boit vraiment ce qu'on commande dans cette introduction. La réponse est souvent non, hein, on va l'avouer, mais faut l'avouer aujourd'hui. C'est le cas, on boit vraiment les bières du CP Tavanne. Merci
santé,
beaucoup
hein.
à Sébastien, journaliste au JDJ, ouais. Joueur du CP Tavanne pour la livraison. La Stammtisch revient non pas pour parler de 3ème ligue, mais pour parler de l'actualité du HCBN en cette semaine de pause internationale. Et aujourd'hui, on ne reçoit ni un joueur, ni un membre du staff ou du conseil d'administration, mais on reçoit quelqu'un que vous connaissez, sans doute. Il est notamment le speaker du HCBN. Il est Monsieur Bilingue de Télébilingue et depuis quelques jours, biennois de l'année 2023. On l'applaudit. Dominique Antonen.
Bonsoir, mes chers sujets.
Tu vas bien.
T'es pas presque carnaval, là.
Non, mais je fais ce que je veux.
Comment ça va, Dom?
Mais écoute, moi, je dirais pour. Bien, très bien. Oui, c'est une pente ascendante, je dis toujours.
Super. Ouais, on y revient dans quelques instants, mais là, ta brève description, elle te convient. Il faut que j'ajoute un point pour.
Non, parce qu'après, ce serait presque un petit peu exagéré. Non, là, c'est bien. Là, c'est
ça
bien.
Va.
Je sens là.
Là, je t'amtiche. C'est aussi et toujours à l'aile droite.
Laurent Kaisel.
À l'aile gauche.
Cyril Pache.
Et au centre, moi-même, Linden Viglino. On va bien sûr parler de hockey, de l'actu du HCBN, mais on va commencer par parler de toi, Dom. On va parler du plus important, j'ai envie de dire, de la santé. L'an dernier, tu as appris que tu étais touché par un cancer des ganglions lymphatiques. C'est bien ça. 35 crayons et 6 chimio plus tard. Comment tu te sens aujourd'hui?
Ben, écoutez, même pas si mal. Enfin, écoute, même pas si mal parce que, effectivement, comme tu le dis, 35 rayons, c'est pas aussi simple qu'il y paraît. Et je m'en rends compte maintenant que, avec le recul, parce que je regarde un petit peu, j'ai tourné quelques vidéos, etc. Puis c'est vrai que quand je remémore ce qui s'est passé, c'était quand même assez ardeux. Et j'avais aussi beaucoup de hantise par rapport à la chimio, parce qu'on attend tellement de trucs sur la chimio. J'avais beaucoup de respect par rapport à ça. Et puis finalement, ben, je m'en suis bien sorti, quoi. J'ai pas eu d'effets secondaires comme ceux qui sont compter, perdre des cheveux, ça va, ça fait pas mal, mais par exemple des vomissements, choses comme ça, j'ai jamais eu, donc c'est vrai que je m'en suis relativement bien sorti par rapport à tout ce que j'ai eu, mais c'était un peu taf quand même, ouais. Je ne recommande pas.
J'imagine.
T'as pris contact quand tu t'emmènes?
Oui, on est en contact, malheureusement on n'a jamais réussi à se voir, mais on s'est un peu motivé l'un l'autre pour voilà, parce qu'on est un petit peu du même sérail hockeyistique, et puis c'est vrai que je lui ai posé un petit peu deux trois questions, je l'ai contacté, ouais.
On connaît, hélas, je pense toutes et tous, des personnes qui ont été ou qui sont touchées par cette maladie, par le cancer. Il y a plusieurs façons de réagir, de gérer sa maladie. Tu parlais de vidéo. Toi, tu as décidé d'en parler très ouvertement, d'exposer ça sur les réseaux sociaux. Pour quelles raisons?
La réflexion a été celle-ci, c'est que comme je devais faire une pause de, en tout cas, 6 semaines, peut-être même 2 mois par rapport à mon émission Rendez-vous sur Télébilingue, c'était sympa de faire des rediffusions, mais pendant 2 mois, des rediffusions sans explication, c'est un peu bizarre. Et c'est là que ça m'a donné l'idée, en fait, de dire, écoutez, on va en parler ouvertement. Et puis, je pense aussi le fait de dédramatiser une situation comme le cancer. Encore une fois, mon cancer n'est pas identique à X centaines d'autres cancers, mais je pense de faire en sorte de dédramatiser un petit peu, de se dire, voilà, il faut qu'on ait plus connaissance de ce qui se passe pour pouvoir se dire, ah, ok, si ça devait arriver, je sais dans quelle direction ça peut aller. Et c'est un petit peu la réflexion que je me suis fait. Puis pour éviter aussi, peut-être aussi, qu'on m'arrête à tous les coins de rue, que je dois raconter chaque fois la même chose. Parce que le fait de parler, c'est pour ça que j'ai ma petite bouteille d'eau, le fait de parler m'assèche passablement la bouche. Parce que, comme tu l'as dit, j'ai eu un cancer. En fait, c'est de la base de la langue, en fait. C'est, ouais, c'est de, les glandes salivaires, c'est un petit peu dans cette région-là. Donc voilà, ça me pose un petit peu des petits problèmes au niveau de l'élocution.
On a de la bière du CP Tavan.
Oui, mais c'est un peu gazeux.
Les prochaines étapes, ce sont lesquelles?
Alors, les prochaines étapes, c'est de... J'ai recommencé à travailler à 40%. Les prochaines étapes, c'est de faire attention de ne pas travailler plus que 40%, ce qui n'est pas très évident pour moi. Et puis, bah, c'est 29 février, contrôle de la sonde, parce que j'ai une sonde pour m'alimenter. Et puis ensuite, au mois de mars, j'aurai un IRM. Donc un IRM, c'est une radio de toutes les parties molles, pour savoir si où c'est que j'en suis finalement. Et au mois d'avril, un PET scan, comme ils appellent ça, c'est pour toutes les parties dures, donc les os, mâchoires, etc., pour voir qu'il n'y ait pas de métastase et puis qu'on puisse me dire, voilà, c'est pas terminé, parce que j'aurai des contrôles pendant deux ans tous les trimestres.
Okay.
Donc le chemin est encore un peu long, mais le moral est bon.
Courage, en ouais. tout cas, tu le sais peut-être, Dom, les auditeurs ont la possibilité de poser leurs questions, notamment via la page Insta de la Stammtisch. Jojo a écrit le message suivant. Je n'ai pas de questions, juste un énorme plaisir de le revoir au micro et de pouvoir écouter ses interventions. Et de son côté, Flo a écrit aucune question également, juste un grand big up pour ce combat mené. Sans lui, les matchs sont moins bien animés. Message passé.
Alors merci à vous deux, c'est très amable et puis c'est vrai que ça me touche, voilà.
Tu as retrouvé la Tissot Arena Dome le dimanche 28 janvier, sauf erreur.
Contre Lagnau.
Contre Lagnau, victoire 4-2. Mm-hmm. On va parler de ta place de speaker dans quelques instants, mais avant ça, on parle de l'actualité chaude. Cyril, Bien va mieux. Bien a battu Zoug et a battu Lausanne ce week-end alors qu'ils étaient dominés, je pense qu'on peut le dire, dans les deux parties. Deux grosses victoires qui arrivent au bon moment.
Ben, ça pouvait pas tomber mieux parce que juste avant la pause internationale, ça permet de faire quelques jours de pause et puis de repartir après dans une bonne position. On voit que, voilà, Bien, ça se joue à deux points entre Bien Genève et Davos. Après, la barre pour le top 6 est plus très loin. Donc, oui, les deux victoires successives, même si c'était pas deux victoires à trois points, ont changé beaucoup de choses pour la suite.
Tu parles de la barre, il y avait un peu deux thèmes récurrents. En début de saison, c'était les blessures et Petri Matikainen. Puis là, depuis quelques semaines, les deux thèmes, c'est la barre pour la sixième place et un peu toujours Petri Matikainen. Tu penses, Laurent, alors on en parle à chaque épisode désormais, mais tu penses que c'est atteignable aujourd'hui, ce sixième rang?
Ben, on avait fait des grands calculs de points par match, je sais plus quelle avité qu'il fallait, etc., 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 quand Bien était 11 ou 12e et... Tout le monde disait que c'était pas possible. Il faut pas oublier qu'il y a des adversaires aussi qui ont des failles. Hein. Lugano a connu un très mauvais début d'année avant de se reprendre. Oui, c'est possible. Alors, ça sera dur parce que il y a quand même du solide en face. Hein. Mais la dernière semaine était belle. C'était une belle de ces deux matchs-là, Lausanne et Hatsu, deux grosses équipes qui tournent bien. Les gagner au caractère, c'était bien. Le premier tiers à Zug, j'ai eu peur. Je me suis dit, oulala, oulala. Puis il y a eu un petit truc, un petit grain de sable qui s'est mis dans la mécanique Tsugas, puis Bien est parti, non? Moi, je mettrai pas ma main à couper que Bien va finir dans les 6, mais il y a, c'est du 50-50 pour moi. On va dire, on va utiliser enfoncer des portes ouvertes match après match. Qu'est-ce que t'en penses, Dominique?
Ouais, c'est vrai, moi, l'équipe me fait des fois un peu peur parce que c'est vrai, on a l'impression qu'elle commence bien un match parce que tout à coup, tiens, qu'elle voit un trou. On est assez habitué à cette, ça fait des années que je connais cette équipe-là, puis c'est vrai qu'on est assez habitué à tout à coup, hop, on a un trou. C'est d'autant plus plaisant quand on voit qu'on peut remporter des matchs et puis qu'on puisse aussi les remporter de temps en temps en tir au penalty. Parce que ça, c'est pas la grande force du ACBN. Et puis, Kunsey, par exemple, qui a vraiment fait fort, là, c'est ces derniers matchs et puis c'est vrai, mais c'est vrai comme tu dis, je souligne aussi que ça va être difficile d'être dans les 6 premiers parce que ça voudrait dire aussi que beaucoup de matchs vont être perdus par les 6 premiers et puis là je pense que ça va être un petit peu compliqué.
Si on va dans le détail du classement, c'est vrai que Lausanne est quatrième avec 73 points, c'est 9 de plus que Bien. Ensuite, il y a Berne, Lugano, Davos et Genève avant entre Bien et Lausanne. C'est extrêmement serré. Si on regarde le calendrier jusqu'à la fin de la saison régulière, c'est justement la revanche, si on peut dire. De nouveau un match contre Lausanne. Ensuite, Kloten, Ajoie, Fribourg, Rapperswil, Davos, Lugano, Genève. Donc 8 matchs. Bienne va affronter les 3 derniers. Aussi 4 adversaires directs qui sont dans ce ventre mou du classement. Ça peut aller très vite, Laurent.
Alors, Willy Voeckling qui prépare les calendriers, c'est quand même un petit malade, nous mettre Genève bien remake de la finale en dernier match de la saison régulière. Ce serait assez marrant que ça devienne une finale de la saison régulière, justement, que le vainqueur de ce match se retrouve justement qualifié pour les playoffs, pour la décroche la sixième place. Or, si bien on arrive là, ce serait bien. Ce serait déjà une belle victoire, je trouve. Mais pour le produit, ce serait bien. Hein, ce serait assez le fun, ce genre de match. Quoi. Après, c'est à Genève, vous allez me dire, mais bon, Genève, c'est peut-être pas Genève de la saison passée. Hein.
Ou bien Dôme, Bienne, Genève en play-in, ce serait aussi sympa.
Oui, bien sûr. Ouais. moi, ce qui fait surtout plaisir, c'est que par rapport au début de saison, où il y a eu passablement de polémiques, bien sûr, les blessés, donc c'est clair que d'en avoir 10 en même temps, ça aide pas. Nouvel entraîneur, ça aide pas non plus, mais c'est vrai que je pensais bien qu'on démontre quand même que l'équipe peut faire quand même quelque chose. Et puis, on voit aussi qu'il y a l'agnac de la part des joueurs, donc c'est pas du fossé, quoi. Donc, ils ont vraiment envie de jouer, ils ont envie de marquer, ils sont fiers quand ils marquent. Et puis je pense que ça aide aussi à évoluer après dans le classement finalement. Oui. Mais c'est vrai que Bienne Genève a une revanche en finale pour essayer de voir qui sera le sixième, ce sera assez top. Quoi. Ouais, en faveur d'eux, bien sûr.
Eh bien, on le verra dans quelques semaines. L'actualité récente, c'est aussi les Beijer Hockey Games en Suède. On retrouve deux Biennois en équipe de Suisse, Joran au but et puis Tino Kessler en attaque. Alors on en a peu parlé dans ce podcast de Joran van Pottelberg. Que pensez-vous, messieurs, de la gestion des gardiens par le coaching staff cette saison? En début de saison, le discours il était assez clair, il n'y a pas de numéro 1, c'est 1A, 1B. Finalement, c'est clairement Harry le numéro 1, peut-être logiquement, à vous de me le dire justement. 10 matchs pour Joran, 34 pour Harry actuellement, c'est logique selon toi Cyril?
Que cet Harry soit le numéro 1, oui c'est logique. Après, je pense que Van Pottelberg aurait pu jouer davantage de matchs. J'espère que Bienne le paiera pas justement en fin de saison, bien s'il se qualifie quand même pour les playoffs, parce que là évidemment que Seteri va aussi enchaîner probablement tous les matchs. Après, je pense que Van Pottelberg a aussi un peu payé son transfert à Lugano, j'imagine. Est-ce que c'était peut-être une petite sanction à l'interne pour un gardien qui a signé ailleurs? C'est aussi, j'imagine que il y a peut-être une petite part de ça aussi.
Bon, ces dernières sorties là à Berne n'étaient pas top. Match à Lugano, c'était pas terrible non plus pour Van Pottelberg. Après, moi, je suis plus surpris du manque d'aspect tactique. Petri Matikainen nous a appris qu'on pouvait tout faire hein, sur la glace, mettre plein de défenseurs en attaque, etc. Des étrangers qui pourraient jouer en tribune. Voilà, il nous a fait tout un spectacle tactique. Puis là, j'ai un peu l'impression qu'il n'utilise pas cette carte d'un gardien suisse qui, même s'il ne connaît peut-être pas sa meilleure période, c'est quand même un gardien solide, d'utiliser ce gardien pour libérer une place d'un joueur étranger, puis de jouer avec 6 joueurs de champ étrangers. Je suis assez étonné que des fois cette carte ne soit pas jouée plus souvent. Quoi. Puis quand il l'a jouée, il s'est bien retrouvé des fois avec 5 étrangers. À un moment donné, il y avait le Letton dont j'ai perdu le nom. Dominique Boukarts.
Oui, bien sûr.
Oui. Tu suis, c'est bien, merci. Il avait même lui été sur en tribune. C'est plus ça qui me surprend. C'est plus ça. Après que cette heure il joue, moi, ça ne pose aucun problème parce que il est solide, il a prolongé, on voit qu'il est bien là, il est bien dans son hockey. Quand il a pas envie, vraiment pas envie de prendre un but, il y a peu de chances qu'il en prenne un. Donc c'est une assurance tout risque. Donc le choix tout à fait justifié. C'est plus l'aspect tactique qui me surprend.
La décharge de tête de Joran qui s'est troué quand même à quelques matchs. C'est vrai que quand t'as pas là, t'as quelques matchs où tu joues pas. C'est vrai que c'est pas évident de se remettre dans la rencontre. Ce qui m'avait étonné, c'est qu'une fois, Petri avait sorti Satteri pour mettre Joran au tir au pénalty. Ça, c'est tout un petit peu étonné. C'est, tiens, ok, ça peut être mettre en confiance ou pas. Je suis pas assez spécialiste en la matière, mais c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. Si c'est juste pour te donner un petit sucre parce que voilà, tu peux quand même jouer. Mais au tir au but, c'est peut-être pas évident. Donc c'est vrai que Joran c'est un très beau gardien. Le fait d'avoir signé à Lugano ou pas, je sais pas si ça peut être joué contre lui. Pas certain, c'est des pros jusqu'au bout. Donc on part du principe que c'est professionnel au niveau des joueurs et aussi du staff d'entraîneur. Donc ouais, je sais pas.
On se souvient, je pense tous de la blessure. C'était le 12 mars 2022 après un choc face à Laurent.
Jérôme Barovnet.
Bien joué, exactement. Eh bien, ça fait tout bientôt 2 ans qu'il s'est blessé et en 2 ans, il a disputé actuellement 20 matchs de championnat. Bon, longue période d'indisponibilité forcément, hein, de rééducation, etc. Mais 20 matchs en 2 ans, c'est très peu pour un gardien de son talent, Cyril.
Oui, c'est dommage. Ben, bien sûr que sa grosse blessure l'a énormément freiné. Après, sur cette saison, pour moi, s'il joue aussi peu, c'est simplement, ça montre que Matti Kainen a pendant très longtemps été sous pression et puis c'est un entraîneur qui devait gagner des matchs et donc on prend le meilleur gardien, quitte à l'épuiser et le presser comme un citron jusqu'au bout pour gagner des matchs. Et puis c'est ce que Bien a quand même réussi à faire, mais pour moi, ça traduit surtout ça, quoi. C'est que il fallait gagner et du coup, on fait jouer le meilleur gardien.
Jørgen qui fêtera son 27e anniversaire cet été. Il part donc à Lugano. C'est un bon choix pour la suite de sa carrière. Laurent, on t'a déjà entendu sur le sujet. Je te lance toi volontairement.
Ah, je sais pas, là. C'est Lugano. On n'a pas l'impression que les joueurs qui vont à Lugano, c'est pour le défi sportif et gagner des titres. Il y a beaucoup d'autres. On a toujours l'impression qu'il y a beaucoup d'autres aspects. Je pense le cas de David Ebichère qui a marqué 3,5 points dans les 5 premiers matchs de la saison, qui a signé, je sais pas, un énorme contrat de longue durée à Lugano. C'est quand même un club qui a un peu tendance à vite s'exciter sur des joueurs qui n'en valent pas forcément la peine ou qui ont eu un coup d'éclat comme ça. Je pense que David Ebichère est un très bon joueur, hein, mais peut-être un peu surcoté par rapport à son début de saison. Van Pottelberg, c'est un peu ça, quoi. Mais bon, la décharge de Lugano, c'est, on va avoir un duo de bons gardiens suisses. Il n'y a pas beaucoup de gardiens suisses sur le marché de jeunes gardiens. La preuve, hein, pour l'équipe de Suisse, moi, je suis Patrick Fischer, je pars avec Jenoni et Béra. Ils sont plus proches de la quarantaine que de la trentaine. Hein, mais il a raison de partir avec ces deux gardiens-là. Il y a un manque au niveau des gardiens.
Ouais, c'est peut-être aussi un petit peu le problème qu'il peut y avoir quand tu les fais pas jouer, justement. Parce qu'ils vont se dire, bon, ok, ben, je vais aller en ligue inférieure parce que moi, j'ai du temps de jeu. Donc,
ouais, mais c'est des gardiens, les gardiens qui devraient sortir maintenant. C'est des gardiens, des gardiens qui ont 30 ans, si tu veux. 30, 32 ans, qui devraient être au sommet, puis qui devraient être les gardiens titulaires d'équipe de Suisse. Ces gardiens-là, il n'y en a pas vraiment maintenant. Il y a Sandro Ischliemann, je ne sais même pas son âge, mais il n'y a pas de Niffeler, ces gens-là. Ils n'ont pas ce gabarit-là. Ils n'ont pas l'étoffe pour être le gardien de l'équipe de Suisse à des championnats du monde puis des Jeux Olympiques. Il n'y a plus ça. Mais pourtant, c'est des gardiens qui ont profité. Il n'y avait pas 6 étrangers quand ils sont arrivés sur le marché. C'est pas moi qui le dis, hein, qu'il y a eu une génération vraiment exceptionnelle de gardiens. C'est parti avec David Ebichère. Après, il y a eu Martin Gerber, Jonas Hiller. On a enchaîné avec les deux, Berra, il y a Jenoni, etc. On s'est un peu trop reposé sur nos lauriers, j'ai l'impression. Et puis maintenant, le hockey suisse le paye, mais il le paye au mauvais moment, dans le sens qu'il y a beaucoup de gardiens étrangers et peu de place pour les Suisses. Donc voilà, il a 38 ans, je crois, Jenoni. Donc je crois qu'il va vite vérifier ça. Mais tu sais de tête, ça.
Évidemment. Évidemment. Leonardo Jenoni, 1987, son année de naissance.
Ça nous fait 37 cette année.
Bien vu.
Voilà, donc là, il est quand même plus proche de la fin que du début, quoi. Il y a un problème avec les gardiens en Suisse. Oui.
Je précise que tu as fait 2024 moins 1987 de tête. Hein. Félicitations. Même en pleine deuxième tournée. Infaillible.
Très bien. C'est le Carmol.
C'est l'effet Carmol.
J'ai le cerveau qui pétille.
Bon, on voit Cyril Pache s'impatienter. À ton avis, pourquoi, Dom? Pourquoi? On sent qu'il y a un manque pour l'instant dans cet épisode du côté de Cyril.
C'est miraculeux, je trouve.
Ouais, exactement. On n'a pas parlé du miracle encore. On n'a pas parlé de Noah Delémont. Touché au ligament croisé du genou gauche, opéré vendredi dernier au tilleul, out pendant plusieurs mois. Il espère revenir en septembre prochain pour le début de la prochaine saison. Saison, décidément, saison 2023-2024, maudite pour Noah Delémont, Cyril.
Ben oui, c'est... Que dire de plus sur toutes les péripéties qu'a vécu Noah cette saison? Je pense que le positif, finalement, c'est que, voilà, dans une saison où rien n'allait, où le coach ne lui faisait pas confiance, ne le faisait pas jouer, ou au moins là, ça s'est arrêté, il a droit... Alors c'est dur de faire... Laurent rigole, je sais pas pourquoi.
Il a choisi le bon moment pour se blesser, c'est ça?
Non, mais il faut voir le positif dans une blessure comme ça, c'est que t'as une pause. Dans une saison où rien n'allait, tu peux un peu repartir à zéro, un peu changer les idées, repartir motivé la saison prochaine, et puis voilà quoi, il faut... Enfin, il y a rien d'autre à faire que de voir le positif, hein, dans ces moments-là, quoi.
Dom, tu te situais du quel côté du miraclomètre? Tu étais d'avis que, OK, il n'avait pas sa place en défense, ou bien c'était scandaleux de ne pas le faire jouer?
Alors, c'est un petit peu les extrêmes, là,
c'est les extrêmes du miraclomètre.
Non, c'est blanc-noir.
Oui, non, bien au contraire. Non, alors, c'est vrai que quand t'as un jeune comme ça, qui a quand même bien montré au début de saison qu'il était là, qu'il était présent, moi, j'ai trouvé que c'était un petit peu étonné que tout à coup, il joue moins ou pratiquement plus, finalement. Puis après, qu'on le mette encore en attaque, c'est encore autre chose. C'est là qu'il a eu sa blessure, pas parce qu'il était attaquant, mais voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que le problème qu'il peut y avoir chez un jeune comme ça, c'est au niveau du moral. Et là, il a deux problèmes, c'est qu'il joue pas et il est blessé pendant 9 mois. Donc c'est vrai qu'il faut une sacrée niaque pour revenir un petit peu à son niveau d'avant. J'en connais quelque chose, hein. Il faut vraiment être vraiment prêt à tout ça, quoi. Et puis c'est vrai qu'à 22 ans, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a que 22 ans, justement. Donc il a un retournement de situation qui peut se faire, mais il faut qu'il le fasse, qu'il soit bien accompagné, puis qu'il se dise, OK, il est pas fini pour le hockey. Au contraire, il a de bonnes chances, selon moi.
Est-ce que Laurent peut parler au nom de l'âge Tamtiche cette fois-ci pour lui souhaiter un bon rétablissement, pas comme il y a 2 semaines où tu te désengageais?
Noah, je te souhaite au nom de l'âge Tamtiche et en mon nom personnel un prompt rétablissement. Et comme l'a dit Cyril, pour une fois, on est d'accord sur ton cas, là, c'est peut-être le bad trip qu'il fallait pour repartir à zéro. Voilà, on repart à zéro avec un tout nouveau Noah Delémont qui va déchirer la saison prochaine. Ça te va comme conclusion sur Cyril et Philippe?
Ah, c'était bien, moi j'ai rien de plus à dire, quoi. Bon rétablissement, et puis voilà, c'est bientôt le printemps, après l'été, il faut qu'il profite, quoi.
Effectivement.
Moi, je rajoute tout nouveau et tout.
Moi je rajouterai, et puis je l'ai déjà dit, never give up. Voilà, je crois que c'est le message à faire passer.
Et je suis sûr que tu nous écoutes, Noah, au nom du podcast également. Joyeux anniversaire, car comme tu l'as dit en introduction, Cyril, c'est aujourd'hui, enfin on enregistre le mercredi, aujourd'hui 7 février, l'anniversaire de Noah qui fête ses 22 ans. Dernier point d'actualité, à votre avis messieurs, on va parler de qui? On va parler de Tony Raiola. Il a gagné son pari, c'est fait, il a réussi à te dépasser, Cyril, au classement des meilleurs compteurs de l'histoire du HCBN avant fin janvier. C'est ce qu'il avait parié à notre micro quand on avait enregistré l'épisode avec lui dans la deuxième partie du mois de décembre. C'était assez chaud, il t'a battu le 28 janvier, pas trop déçu Cyril?
Non, écoute, alors il faut reconnaître quand même qu'il m'a battu de peu, hein. ça s'est joué à rien quand même.
Effectivement.
Mais, mon frère l'autre jour me parlait de ça, il m'a demandé ah ben qu'est-ce que vous avez parié, puis j'ai pas pu répondre, c'est vrai, on a oublié de parier quelque chose, quoi. C'est un peu le regret quand même derrière cette histoire là, quoi.
On avait seulement dit que s'il n'y arrivait pas, il devait revenir à l'âge Tamtiche pour expliquer pourquoi il n'avait pas réussi, mais c'était la seule chose en jeu, c'est vrai. Alors le prochain joueur,
t'as pas un vieux maillot que tu pourrais dédicacer et lui offrir?
Il est très vieux le maillot, là, ouais.
Non, je vais lui offrir une mécane de l'époque, puis on verra si Marco temps de but.
Exactement.
Une bonne carte en bois.
Le prochain joueur en exercice qui te suit au classement, c'est Gaëtan Haas. Alors, il est loin de toi. Il a 120 points de toi. Ça devrait aller. Tu devrais rester au sein du top 5 encore quelques temps.
Petit.
Là, la question suivante, s'il te plaît. Là. Moi, j'entre pas en matière avec des choses comme ça.
T'es sérieux? Là, t'es sérieux?
Bon, Dom, je propose une petite respiration dans ce podcast. On va écouter un reportage qu'on a réalisé ensemble le 9 février 2019. Ça fait déjà 5 ans. Ouais. Avec Feu, la radio Canal 3, j'étais venu te rendre visite dans la cabine de chronométrage pour parler de ton rôle de speaker. On a reçu quelques questions sur ce rôle-là. On y reviendra juste après. Reportage effectué lors du match entre Bienne et Berne. Je précise, c'est important pour la compréhension du reportage, Gaëtan Haas, qui marque le premier but dans ce match-là en février 2019, porte les couleurs bernoises. C'est parti.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Partie. Wir begrüßen heute Fans vom SC Bern. Mesdames, Messieurs, et soyez les bienvenus à l'occasion.
19h32, les choses sérieuses commencent. Vous vous apprêtez à aller sur la glace?
Oui, effectivement. Maintenant, je vais faire la composition de l'équipe du HCBN. C'est un petit peu une nouveauté pour moi depuis environ la fin de l'année passée, la saison passée. Je suis sur des patins. Pas très bon patineur, mais ça fait bien, ça fait plaisir. Et puis tant que je ne me pète pas la figure, ça va le faire. Ouais.
Pourquoi avoir décidé de se mettre sur les patins?
Ben, parce que dans les autres clubs, ils le font aussi. Et puis on nous a aussi demandé, écoute, ce serait possible ou pas. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Alors j'ai fait quelques achats, j'ai pris les patins qu'il me fallait. Puis ça se passe, quoi. J'ai du plaisir en plus, ça va.
C'est parti, le match a commencé. Vous êtes maintenant 5 dans la cabine. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer les fonctions de chacun?
Alors à ma gauche, on a une personne qui s'occupe de regarder le film sur la télévision, puisqu'en fait, s'il y a un litige et puis qu'on demande un coach challenge, par exemple, les arbitres viennent ici aussi pour dire est-ce qu'il y a eu but ou pas but. Donc c'est une personne qui s'occupe de regarder ces images. Ensuite, il y a ma place en tant que speaker. À côté de moi, il y a une personne qui s'occupe de l'ordinateur, qui mettra le résultat que les gens verront pris directement en ligne sur le fameux télétexte. Si, ça existe toujours. Ensuite de ça, une autre personne qui fait également des annotations par écrit encore, on ne sait jamais, si on a un problème technique, on a encore des traces écrites des résultats, des pénalités, etc. Ensuite de quoi, c'est le rôle le plus important, selon moi, c'est la personne qui doit à chaque interruption de jeu être attentive au coup de sifflet de l'arbitre, puisqu'il va cliquer pour interrompre le temps de jeu.
Ça donne 5 personnes, 5 fonctions différentes, mais un point commun, vous êtes tous bénévoles.
On est tous bénévoles, effectivement. Ouais. Beaucoup de gens nous disent, t'es payé pour des matchs. Je dis, oh non, on n'est pas payé. On a notre badge pour rentrer. On reçoit tous un abonnement gratuit que l'on peut remettre gratuitement aussi à nos amis, par exemple. Mais ça, on est bénévole depuis X années. Puis je crois que c'est ce qui fait la beauté du geste aussi, c'est que vraiment les gens qui viennent ici savent que hey, je peux être ici, je peux faire partie de l'aventure, je fais partie du HCBN à titre bénévole.
3-31.
Le premier but de CP Berne est marqué par le joueur numéro 92, Gaëtan Haas. Il est assisté par le joueur numéro 48, Mathias Biber. Temps 3 minutes 31.
16-41.
25-55-21.
2 goals for AC Bern is erzielt worden door de speler nummer 25, Andrew Ebbett. Assist Nummer 55, Karl Andersson. Und Spieler Nummer 21, Simon Moser. Zeit 16 Minuten 41.
Juhu! Olle! Erster Goal für den EHC. Ist erzielt worden. Der russische Spieler Nummer 7, Jerno. Assist Nummer 13, Anzi. Zeit 33 Minuten 41. Le premier but biennois marqué par notre joueur numéro 7, Jarno Kerki.
Annonce du premier but biennois. C'était quelque chose de réglementé, le nom, le prénom du joueur, le temps. Vous n'avez pas trop le choix.
Non, effectivement, la seule chose qui n'est pas vraiment réglementée, c'est le petit cri de guerre qui précède. Mais effectivement, on doit donner dans cet ordre-là, soit en allemand ou en français en premier, ça dépend un peu de l'humeur. Ce que j'essaie de faire, c'est que si c'est un joueur qui parle français, je lui dis d'abord en langue française, mais bon, même ça, c'est pas donné, quoi.
C'est une obligation de parler dans les deux langues des équipes qui jouent.
Absolument, même des fois en trois langues. Quand on a Lugano, par exemple, on doit parler en italien également, oui.
Il y a, dans la directive des speakers de la Ligue de hockey suisse, l'article 1.3 qui dit que le speaker informe de manière posée, objective et neutre. Il n'appartient pas au speaker de chauffer les supporters. Comment vous fixez les limites ?
Alors effectivement, on doit rester neutre, donc je n'aurais pas le droit, par exemple, de dire si l'équipe de Bienne est un petit peu mauvaise position, mauvaise posture durant une rencontre, de dire, vous faites un allez-y, donnez tout, on n'a pas le droit. Et puis le IH, je crois que c'est comme tous les speakers qui se respectent, on a pour quel fort, je pense qu'on a nos émotions, donc là c'est bon, j'influence personne, parce qu'en même temps, il y a tout le monde qui fait des hurrahs, des bravos en même temps, donc ça va.
Dominique, si on reprend ce qui a été dit dans ce reportage de l'époque, speaker, c'est donc une activité bénévole à Bienne et vous devez rester neutre.
Absolument. Oui. D'ailleurs, il y a des directives qui nous sont données de bénévoles, oui, parce qu'on y va avec plaisir, on reçoit notre badge pour pouvoir entrer dans la patinoire, plus un abonnement. Donc, c'est ce que l'on reçoit. Et puis, effectivement, le fait d'être neutre, ça nous aide toujours, et c'est étonnant parce que ça pas passé le message dans tous les clubs, je crois, c'est que on a des cours tous les étés, des cours de speaker, en fait, où on a ça comme sujet aussi, de rester neutre, effectivement. Alors, il faut préciser que dans différentes patinoires, ce qui n'est pas le cas à Bienne, il y a un speaker, donc, qui annonce les buts, les pénalités, c'est ce que je fais moi, plus une autre personne qui est animateur. Mmh. On a eu aussi, moi j'ai eu le double rôle pendant de longues années, puis ensuite on a eu aussi pendant quelques années, on a eu quelqu'un qui faisait que l'animation, puis là on n'a plus maintenant. Donc c'est vrai qu'on est relativement neutre à Bienne, quand on fait un but, ben on entend qu'on a fait un but, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas le droit de faire en sorte que les fans donnent un petit peu plus de la voix, parce qu'il faudrait pas, voilà.
Le fameux fait du bruit à Genève, c'est l'animateur, pourquoi ne
plus en avoir à Bienne?
Parce que, ouais, c'est une bonne question. Pourquoi pas? Je dirais, bon, premièrement, on n'a pas besoin non plus de copier d'autres clubs. Je pense que voilà, on a aussi notre marque à nous. Et puis, je pense que je suis pas certain que le public soit prêt à ça. Et on a le bilinguisme. Donc, Zinzi Parat. Ouais, ça ne fait pas forcément.
D'ailleurs, tes anciens confrères speakers suisse-allemands avaient toujours du mal à dire le mot but. Hein. J'ai expliqué la différence. Je sais pas si ça dit quelque chose, expliquer le mot qu'ils disaient à une lettre près, une signification très différente.
Tendancieuse.
Il n'arrivait pas. J'ai expliqué, il pensait dire juste, mais il n'arrivait pas. Quoi.
Ouais. Non, mais il faut aussi préciser qu'à Bienne, on a aussi un fans club. Enfin, ils sont là. Hein, je dis que d'ailleurs, même la presse le souligne assez fréquemment. Les présentateurs radio ou TV soulignent qu'on a une bonne ambiance aussi au stade. On les entend bien. Aussi à l'extérieur, même quand on n'est pas beaucoup. J'ai aussi fait quelques matchs à l'extérieur en tant que spectateur, logiquement. Et puis, c'est vrai qu'on les entend. Donc, ils donnent de la voix et ça nous simplifie la vie aussi.
En février 2019, dans ce reportage qu'on a diffusé juste avant, c'était donc il y a 5 ans, tu disais que désormais, tu allais mettre plus souvent les patins. Finalement, tu as laissé de côté cette idée-là.
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est que on n'a pas des joueurs qui sont très enclins à faire des entrées à la façon d'autres clubs. Hein. Donc, moi, je serais assez prêt à aller sur la glace puis refaire ça. Donc, je devrais aller à l'Esplanade pour m'entraîner. Bon, c'est fermé maintenant, ça va. Parce que je suis pas très, très, très bon en patin. Bien, Cyril, je pense que tu es encore relativement bon patineur. quelques cours. Mais c'est vrai que, en fait, c'est un petit peu ça le problème. C'est qu'à Bienne, on n'a pas vraiment envie de faire comme ça. Donc voilà. Donc, mais c'est vrai que j'aimais bien. J'ai failli me péter la gueule, mais une fois. Mais je me suis bien récupéré, donc ça va.
Si on parle de Dominic Antonen, speaker, on pense forcément à ta marque de fabrique. Alors, on ne va pas essayer de t'imiter. On va te laisser... qu'est-ce que tu dis, pour faire simple, quand il y a un but du HC Bienne? Est-ce que tu peux nous faire une démonstration dans ce micro au podcast?
D'accord, donc on a marqué, puis tu as les volumes qui ne sont pas trop à fond. Hein.
Ça va aller, ça va aller. Bravo. Bravo. C'est ça. Alors, on a reçu une question là-dessus, question d'Olivier qui te demande d'où ça vient ce cri légendaire.
Alors, ça vient d'Europa Park. Ouais, j'étais allé à Europa Park avec ma fille qui a maintenant 27 ans, donc une de mes filles qui a maintenant 27 ans, et j'y suis allé pour son 10e anniversaire. Et puis, on était allé dans un de ces bars, salons, ranch, je sais pas quoi. Et puis, il y avait sur scène des cow-boys qui faisaient « Yeehaw !» Je disais « Ah, ça pourrait être sympa, ça !» Puis, j'ai amené ça, puis voilà. Et puis, ça fait en tout cas, depuis, je pense, bien 17 ans que je fais mon « Yeehaw !» Et puis, puis ça marche, quoi. Les gens me reconnaissent aussi grâce à ça. Donc,
ça, c'est clair.
Ah, c'est lui
ouais. Une question de Lucas, toujours sur Insta. Il te dit « Bravo pour ton travail impeccable. Et comment se passent les relations avec les autres speakers de Ligue Nationale A ?»
Alors, très bien. Alors, très, très bien. On a maintenant, depuis, je crois, 3 saisons, on a un groupe WhatsApp où on est tous dessus jusqu'en Swiss League. Et puis, c'est vraiment sympa. Je dis jusqu'en Swiss League parce qu'on se retrouve tous à Ittigen en été, justement, quand il y a les séances de speaker, enfin, la formation, je dirais, les informations qu'on reçoit. Donc, on a vraiment une très, très belle entente. Grâce à ça, ça m'a permis aussi d'aller à Genève quand il y avait le 7e match. Non, mais c'était le 5e match à Genève. Parce que ça, c'était juste pas possible d'entrer parce qu'il n'y a pas de place. Donc, vraiment, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ouais. Et puis, on essaie de se voir aussi quand on a l'occasion d'aller dans une patinoire de l'adversaire. Ouais.
Et vous faites quoi concrètement lors de ce cours en été? Donc, vous apprenez ou on vous rappelle de rester neutre? Et sinon, ça ressemble à quoi?
S'il y a des nouvelles règles, on a aussi un arbitre qui vient toujours un petit peu nous expliquer les nouveautés. Il y a 2 niveaux chez aussi qui vient nous saluer au début. Et puis, le plus important, c'est la grillade à la fin.
Évidemment.
Non, mais c'est vraiment sympa, c'est de se revoir et puis... oui, vraiment, c'est bien aussi d'entendre un petit peu les problèmes que l'on a. Par exemple, on nous a aussi demandé, enfin, ce serait bien si, avant le match, le speaker va se présenter auprès des arbitres. Comme ça, ils savent qui c'est. C'est important, au cas où il y a contrôle vidéo, etc., qu'ils sachent que, ah, ben là, on doit s'adresser à cette personne-là. Donc c'est vraiment bien. Ça nous permet, je pense, de voir aussi d'autres personnes, en l'occurrence, les arbitres.
Justement, le contact avec les arbitres, des fois, toi, t'es au cœur d'action, hein. Ça m'est arrivé une fois en première ligue, me retrouver par hasard dans la cabine du, speaker, chronométreur et tout, on est vraiment dans un mètre de plus, on est sur la glace. Hein. T'es au cœur d'action, tu vois peut-être des choses, tu vois des coups, des trucs que les arbitres voient pas. Des fois, ça t'arrive d'être énervé. Au fond de toi, t'as envie de dire non mais gros là, tu l'as pas vu celle-là.
Alors au fond de moi, je dis ça, mais je n'étais pas gros parce qu'ils sont assez sveltes. C'est des arbitres. Non, alors, là, c'est une directive aussi. On n'a pas le droit d'intervenir dans une décision, mais d'influencer.
Mais ça, des fois, ouais.
Ah oui, mais bien sûr que ça rébelle.
Ça rébelle. Ouais.
Dans l'estomac.
Puis là, tu coupes le micro, puis t'en discutes dans la.
Alors ça m'a arrivé une fois de pas couper le micro. Je crois que c'est même toi qui avais écrit un article sur ça.
Ah oui, c'est juste.
J'aurais dû être speaker au championnat du monde de hockey sur glace. Et puis on était en train de tester des nouveaux micros qu'on allait utiliser pour le championnat du monde à Lausanne. Et puis j'étais pas habitué, j'avais laissé ouvert le micro. J'avais dit non, mais ça va pas les arbitres. J'avais sorti un truc comme ça, je crois.
On entendait discuter. Je me souviens.
Mais c'était heureusement que j'ai pas dit bon deux. J'étais poli avec eux, donc ça allait. Non, c'est vrai que donc on n'a pas le droit de prendre position, on n'a pas le droit de s'énerver, on n'a pas le droit de taper contre les vitres. Des fois, les premiers avec des fonctionnaires qui, ils sont très sanguins. Mm-hmm. Et puis, on n'a pas le droit. On représente le club, en fait. Donc, ça nous aussi d'être un petit peu apaisé.
Tu t'occupes pas des reprises vidéo, là. Il y a un technicien pour ça.
Oui.
Est-ce que des fois, je me suis toujours posé la question parce que, est-ce qu'il y a toutes les reprises vidéo qui sont possibles ou bien s'il y en a une qui est trop flagrante, on voit vraiment que le puck a passé cette ligne, puis il ne faut pas qu'il passe la ligne.
Donc, il y a deux reprises. Il y a les replays que nous, on fait dans le cadre du club. Ouais. Donc, c'est notre régie qui choisit. Et puis, il y a ce qui passe par la télévision.
Ouais.
Donc, ce qui passe à la télévision, c'est lui qui choisit.
On peut un peu traficoter pour pas
alors,
que ça...
Ça se fait dans le quart
de régie.
Ça se fait dans le quart de régie. Et le quart de régie, là, à l'extérieur. Donc, voilà.
Donc, il faudrait mettre des biennois dans le quart de régie.
Absolument. Oui. Interdire d'accès là.
On va trouver. Entrer dans la bande de la télé.
Oui, absolument. Ouais.
Tous les autres speakers en National League, ils sont bénévoles?
Oui. Je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas te dire s'il y en a qui sont défrayés ou pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais moi, je trouve qu'à Bienne, on a cette habitude-là depuis X années. Mais ça fait 33e saison là, que je suis comme speaker. Et ça ne s'est jamais posé la question.
OK.
Non.
Un petit souper, ce genre de choses.
Oui, alors que on a
reçu
en fin de saison un petit présent. Ouais.
Mais jamais d'argent. Mais,
alors, oui, sous la forme de notre abonnement.
Ah oui,
qu'on n'a pas le droit de revendre, par contre, ce qui est logique, mais qu'on peut passer à un membre de sa famille, par exemple. Donc, ça fait quand même ce montant-là d'un abonnement. Ouais.
Et puis, les petits... Mais jamais, t'as jamais reçu une enveloppe avec d'argent dedans.
Jamais, non. Donc ça, j'aimais le souligner et je trouve même que c'est bien. Mm-hmm. C'est vrai que ça peut être sympa, par exemple, si on recevait un sandwich ou quelque chose comme ça, mais quelque part, moi, si je le fais, c'est avec plaisir.
La prochaine fois, je t'en amène à la salle de presse.
Oui, merci. Je sais où c'est. Non, c'est vrai que je crois que c'est le plaisir, et puis d'être dans l'action, puis d'être vraiment, comme tu disais, à un mètre, mais même pas, 6 centimètres de la glace, quoi.
Comme le HCBN a racheté le Cécile, là, la nouvelle cafétéria du club.
L'endroit au café gratuit.
Voilà, si vous pouviez penser à amener à. On parle directement à Daniel Villard, faut éviter les intermédiaires. Si vous pouvez penser à amener des sandwichs et autres corbeilles à fruits et petites sucreries à la cabane de chronométrage, je pense.
Ah non. C'est déjà à tout le monde, pas qu'à nous, à tout le monde.
Ouais. Oui, ça fait du monde. Hein.
Oui, ça fait du monde.
On a une question de Valentin, je pense connaître ta réponse, mais on ne sait jamais. Quel est le match que tu retiendrais si tu dois en choisir un seul? Tu peux te souvenir d'un seul match de ta carrière de speaker, ce serait lequel?
En tant que speaker?
Oui.
Il y en a un qui est en 2008, quoi.
Évidemment.
Parce que, il y a une anecdote, parce que une anecdote, là, j'étais à Malte. J'étais parti à Malte le dimanche, et puis le lundi, je suis revenu. Le match était à mardi. Je suis revenu le mardi, j'ai fait speaker, je suis cassé le mercredi.
C'est juste.
Faut être un peu fou, quoi.
Je sais que raconté ça.
Ouais. Donc ça, c'est le match, effectivement. Puis après, malheureusement, j'ai aussi, vécu la relégation. Mais après, je vois l'ascension des titres de champion suisse, avec toi aussi.
Ouais, avec Cyril, c'est vrai, vous avez vécu pas mal de choses.
T'as commencé.
Il y a une vraie aventure entre vous deux, quoi.
Ma première saison, quand j'ai commencé, c'était en fin de saison 92-93, tu vois.
Ouais, moi, j'ai commencé en 90, donc voilà, quoi.
Ouais.
Donc, effectivement.
Bon, Cyril a dû arrêter depuis.
Oui, j'ai appris ça, mais dernièrement, je crois, non?
Oui, c'est tout récent. Il hésite à reprendre au CP Tavan, il me l'a dit, si j'ai des contacts, mais je peux te donner ça.
Ouais, ou bien à Bienne pour dépasser Tony, peut-être.
Alors Dom, il y a une partie de ton CV que la plupart des Biennoises et des Biennois connaissent, j'en suis certain. Tu as vécu les débuts de Canal 3, les débuts de télé bilingue. Tu es donc le speaker du HC Bienne, j'imagine que tout le monde le sait. Tu es le monsieur bilingue. Certains savent aussi que tu as été élève au cours Florent à Paris. Tu en as parlé à plusieurs reprises. Oui. Ce que peut-être moins de gens se souviennent, ou ce que les jeunes en tout cas peut-être ignorent, c'est qu'en 1995, j'ai encore un article de presse ici, tu n'étais pas encore monsieur bilingue, mais c'est marqué dans cet article du Journal du Jura du 21 février 1995, tu étais monsieur Sauvé HCB. Oui. C'est comme ça que te définissait Raoul Ribot, hein, l'article
il y avait,
de l'époque.
En plus, il faut remarquer, en 95, il avait déjà un numéro de téléphone portable. Hein, je pense que c'était un
077.
Avec, oui, avec un chiffre en moins. Ouais. Alors, vous pouvez appeler, j'ai essayé cet après-midi. Hein, 077 31 26 74.
Oui, c'est Jean-Pierre.
il manque un chiffre, ça ne marche plus, ces numéros-là. Il y a aussi un beau pingouin sur le logo du HCBN. Hein. Porte-malheur.
Il s'appelle Slappy.
Il a porté chance.
C'était pas vraiment le cas. Tu peux raconter. Alors moi, j'avais 27 jours quand cet article est sorti, donc forcément, moi, je m'en souviens bien.
Pas bien, hein.
Moi, je m'en souviens, mais les autres, tu peux nous raconter cette campagne-là?
Oui, alors ça, c'était une belle histoire aussi. En 95, donc Cyril, tu étais là. À l'époque, il y avait un club de publicité au HCBN, et puis moi, j'ai fait technicien en marketing, et puis le président de l'époque, qui était Willy Roth, cherchait un responsable marketing, puis il a demandé, est-ce que quelqu'un a des connaissances en marketing? Moi, j'ai levé la main, et le lendemain, j'étais responsable marketing du HCBN, donc je suis resté pendant 2 ans. C'était pas le conseil d'administration, mais au comité du HCBN. Et puis, effectivement, on était dans une phase où on n'avait plus de sous dans les caisses, on devait payer l'AVS, etc. Et puis, j'ai démarré en février. Ça tombait bien parce que, à l'époque, je travaillais encore dans une compagnie d'assurance. Mon chef de l'époque partait en vacances de ski. Et j'en ai profité pour pas travailler pour l'assurance, mais pour travailler pour une action Sauver le HCBN. Et je crois qu'en l'espace d'une semaine, Souffrègueur, on a réussi à rassembler 120 000 francs à Souffrègueur, qui a permis je peux le dire maintenant, de sauver le club, bêtement. Ouais, parce qu'il fallait qu'on paye ça, quoi. Et puis, c'était absolument génial. Hein. Les gens payaient par poste. Le Journal du Jura, à l'époque, avait super bien joué le jeu. On avait des piles de récépissés postaux que les gens payaient. On mettait, je crois, même le nom de tous ceux qui payaient dans les journaux. Ouais, c'était assez génial. Des bouchers qui me téléphonent, disaient, je te donne le 500 saucisses, puis on allait les vendre. Puis tout l'argent allait, en fait, en faveur du club, c'était assez top, ça.
Et cet article-là que j'ai imprimé, ça parle de Bikov Komutov qui viennent à Bruck pour vendre des cassettes.
Oui, juste, j'avais organisé ça parce que j'avais quelques accointances avec les instances dirigeantes de Fribourg. Et puis, effectivement, ils sont venus au centre, c'était Carrefour à l'époque encore.
Mais moi, j'en profite vite pour poser la question. L'histoire du pingouin, tu te souviens? Enfin,
oui, je me souviens.
Ah oui, tu étais en plein dedans. C'était quoi déjà? Moi, j'ai oublié.
En fait, il fallait une mascotte. Parce qu'en fait, tous les autres clubs ont des mascottes. Et puis, bien, il n'y en a jamais eu.
C'était la décision du club, tu dis, il fallait. C'était le club qui a décidé.
Le club a dit, tiens, on l'a fait. Voilà, c'était le club de publicité, je m'en à l'époque, qui avait dit, ce serait bien que l'on fasse. C'est pas moi, non. C'est pas moi le pingouin dans le service.
Je vais pas t'accuser.
Non, et puis après, il y a eu différentes ébauches de qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mascotte. Et puis, je sais pas pourquoi. Peut-être que l'histoire de pingouin, banquise, glace. Ok, peut-être. Je sais plus quelle était la démarche artistique là derrière, quoi.
Ouais. Bon, à l'époque, il y avait les Pittsburgh Penguins de Lemieux, Jaromir Jagr. Peut-être ça, voilà. Mais bon, c'était un lointain cousin. Celui-là était un peu plus dodu, d'ailleurs, il me semble.
Effectivement. On pourra le mettre.
Ouais, c'est des beaux souvenirs, ça, effectivement. C'est vraiment des beaux souvenirs. Et puis, je me souviens de cet article de Raoul Ribot qui va être marqué à la fin. Mais maintenant, on va laisser Dominique Antonin tranquille, travailler, genre, un truc comme ça.
Exactement.
Ouais. Dans l'enchaînement, donc, Bien avait été relégué. Et là, c'était 4,5 millions de dettes, je crois.
Oui, je me souviens plus des chiffres, mais qui ont été
appris. Et là, il y avait ce comité HCBB, HCBB, Bibienne, quelque chose comme ça, qui avait été créé autour de... Il y avait
Erwin Stalder, il y avait Claude Fössinger, Urs Frey, il y avait moi,
toi,
Daniel Kataruza aussi.
On en parle avant l'émission, je me souviens d'avoir vu dans les archives ces grands messieurs, des industriels, puis à côté, il y avait un petit gars avec des lunettes, avec un costume qui avait l'air deux fois trop grand, quoi. Ouais. Mais comme le disait très justement Dominique, sans ces gens-là, le HCBN maintenant n'existerait pas. Il aurait peut-être joué dimanche soir contre le CP Tavan et...
Avec Carmol.
Avec une tournée de Carmol. C'est ces gens-là qu'on sauvait.
Je vais rajouter aussi qu'il y avait nous, mais il y avait surtout les gens qui ont fait avec, la population qui a fait avec, et ça allait hyper loin, quoi. Ça allait juste dans le Jura. Vraiment, on a eu un soutien, truc de fou, quoi. Puis après, on a eu un avocat qui nous a permis aussi de parler avec les créanciers de l'époque. Donc, c'était pas simple, parce que beaucoup ont abandonné l'argent qu'on leur devait, en fait.
Mais sans ce mécanisme que ce groupe-là avait mis en place, c'était fini.
Je suis assez d'accord.
On pourra mettre le pingouin sur nos réseaux sociaux pour que les gens puissent effectivement apercevoir. Je te donne, alors ça c'est juste cadeau entre nous, une belle photo de 1993 avec Claudia Nuara.
Ah oui.
Voilà,
ah
ça oui. C'est cadeau. Qui est donc présentatrice à Télébilingue. Vous êtes les deux membres de Télébilingue à n'avoir jamais quitté la chaîne. Et ça aussi, je vais peut-être la mettre sur les réseaux sociaux. Ouais. Un biennois à Cannes, c'était en 1988. Voilà, Dominique Antonen. Alors, je le mettrai sur notre page Insta.
Un peu tombeur, là.
Beau gosse.
Oh, le gars. Oh, le gars.
Vous mettez pas ça sur les réseaux.
C'est con, on a mis tous nos archives en ligne. Avec, la
ouais, effectivement. Ouais. Non, c'est bien. Non, mais j'assume. J'assume, pas de soucis.
Pas les choses encore...
J'en reste là pour aujourd'hui, mais on va pouvoir creuser un peu plus tard.
Ouais.
On arrive déjà gentiment à la fin de cet épisode, alors sans transition, on passe au quiz.
Dernière tournée.
Pour cette dernière tournée, un quiz dédié à l'équipe de l'époque. On parlait de 1995, février 1995. On va s'intéresser à l'équipe de 1994-1995. Il faut
ça,
deviner...
Ça, c'est facile pour Cyril, ça.
Ouais, alors, ouais. Normalement, il y a un avantage, mais le but, on le rappelle, c'est que Laurent ne gagne plus ce quiz final.
Vous savez, moi, je suis vieux, là, je ne me souviens plus de tout.
J'ai cherché le Carmole.
J'ai pris les joueurs les plus évidents pour que tout le monde, y compris moi, les auditeurs, auditrices plus jeunes, puissent trouver les réponses. Alors, j'ai pris des noms assez évidents. 5 joueurs à deviner, celui qui le fait le plus de
saison
points à gagner.
94-95. La première après la relégation. L'année de la relégation.
Voilà
l'année de la
exactement.
Relégation.
Alors, il faut répondre le plus vite possible. Meilleur pointeur du HCBN cette saison-là.
Yann Alston.
Voilà, je peux arrêter là ma description. Voilà. Bon, c'est quand même Laurent qui a le premier point.
Ouais, on continue.
Allez, on continue. Le deuxième. Mais c'est...
Non, mais c'est quoi la description?
C'est très facile.
Rassé, élégant. Blablabla.
C'est très facile ensuite.
Tu peux répondre moins vite, s'il te plaît.
Défenseur aujourd'hui, directeur sportif.
Martin Steinegger était même capitaine, il me semble.
Aujourd'hui, Stony, mais bon.
Ouais. C'est dommage. C'est Laurent qui a quand même 2 points pour l'instant. Il faut absolument une remontada. Il reste 3 questions. Attaquant aujourd'hui, ailier de la Stammtisch.
Cyril Pache, quoi, non? Ouais, c'est ça.
Ah, bien vu. Bien vu, Dom.
Il semblait que Gabriel Tacos, c'est tout.
Il semblait que toi, Dom, tu le connaissais encore légèrement. Défenseur aujourd'hui, conseiller municipal, vert libéral, Anido.
Beat Cataruzza.
On veut le moteur en route.
Bon, ben, pour la forme.
Je conseille.
Je faisais des descriptions quand même assez évidentes. Alors, la 5e, elle est entre les deux. Attaquant, fils de la femme du maire de Bienne.
Ah oui, c'était
Michel Rizen.
Michel Rizen. Ouais. Bien joué. Bon, c'est Laurent qui gagne. Félicitations.
Ouais, Je t'avais dit.
Ce qui me déçoit un petit peu, c'est qu'il n'y avait pas dans tes questions de joueurs où on pouvait mettre un peu l'accent. Alexandre Tremblay, par exemple. Jean-François Jonf. Je ne sais pas si vous vous souvenez de
ceux-là.
C'était plus tard, bien sûr.
Il y a l'Alston des Québécois.
Oui, juste. Ouais. Et Paul Gagné aussi, qu'on était content d'avoir avec nous chez Onlyfi, mais c'était plus tard, ça aussi. Ouais. Mais c'était aussi une sacrée équipe, ça.
Là, c'est passé très, très, très vite. On est déjà, au bout du temps imparti. Merci beaucoup, Dom, d'être venu, d'avoir participé à notre podcast.
Ouais.
Prends soin de toi. On te retrouve à la Tissot Arena pour le prochain match à domicile.
Le 16. Face à Cloton.
Cloton, exactement. Ouais. Merci beaucoup, Cyril. Merci, Laurent. Merci à vous qui nous écoutez. Envoyez-nous vos retours, vos commentaires, vos questions sur Facebook et Insta. À dans 2 semaines, ce sera déjà le dernier épisode de la saison régulière. Pour la Stammtisch. À très bientôt, bye bye.
Ciao tout le monde, bye bye.
Salut à tous. Au revoir.
Merci. Bonne saison.
C'était la Stammtisch, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.